La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
L'intelligence artificielle, plus familièrement l'IA, fait actuellement parler d'elle de tous côtés, à tout niveau. Impossible d'y échapper. On ne peut pas commencer à écrire un texte sans voir s'afficher des suggestions d'IA pour la suite de ce texte, des suggestions parfois bien encombrantes. Elle résout nos problèmes, souvent, de manière très juste et approfondie, mais aussi, parfois complètement, à côté de la plaque. Dans la vie de tous les jours, les relations du public avec l'intelligence artificielle ont profondément évolué. Dans l'imaginaire collectif, nous ne sommes plus accompagnés simplement par l'intelligence artificielle, mais par une ou plusieurs IA personnifiées par le public. Il y a 2 ans, en janvier 2024, nous vous avions présenté 2 entretiens sur ce sujet avec Malik Khalab, qui est l'un des grands spécialistes internationaux de l'intelligence artificielle. Il travaille sur ce sujet depuis les années 1980 et il a publié l'un des premiers livres en français sur l'IA en 1987, qui s'appelait « Éléments d'intelligence artificielle ». Il a publié ensuite de nombreux livres, la plupart en anglais. Malik est à présent directeur de recherche émérite au LAS, le laboratoire de recherche spécialisé dans l'analyse et l'architecture des systèmes à Toulouse. Bonjour Malik.
Bonjour Sylvie.
Il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernière discussion il y a 2 ans. C'est une évolution fulgurante. L'intelligence artificielle a complètement envahi notre quotidien et on a déjà l'impression que le public ne pourrait plus s'en passer. Et pourtant, il faut faire très attention. Car l'IA est loin d'être parfaite. Elle dépasse les attentes en résolvant des questions au-delà de ce qui était prévu, mais elle est aussi capable de dysfonctionnements, de comportements incorrects, de propos nocifs et même de tricheries et de mensonges. Alors pour commencer, Malik, pourquoi dit-on que l'IA dépasse nos attentes ?
Il y a une surprise qui s'est manifestée il y a maintenant un peu plus de 3 ans à travers les grands modèles du langage. On considère qu'il y a vraiment une rupture dans les possibilités des systèmes d'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette rupture vient de très très loin, qu'elle est préparée par un certain nombre de choses qui sont l'évolution du numérique tous les 18 mois de la puissance des microprocesseurs. On est parti des microprocesseurs qui faisaient quelques centaines à quelques milliers d'opérations à la seconde. Aujourd'hui, il y a des processeurs qui font des milliards de milliards d'opérations à la seconde. Ensuite, il y a les réseaux. Là aussi, les réseaux, on les connaît depuis 50 ans, 60 ans, mais ils ont pris une très, très grande ampleur avec des bandes passantes fantastiques où on peut échanger 1 milliard d'octets à la seconde avec fibre optique, etc. Et le troisième élément, qui est basé sur les 2 premiers, c'est les grandes masses de données. Ils font qu'on dispose d'une énorme quantité de données sur la base desquelles on va faire de l'apprentissage. L'apprentissage n'est pas nouveau, l'apprentissage est ancien en intelligence artificielle, mais il a changé de nature sur plusieurs facettes. Les grandes nouveautés en intelligence artificielle, c'est que jusqu'à à peu près les années 2000-2010, nos méthodes et nos succès étaient très spécialisés. On disposait de méthodes très spécialisées qui étaient coûteuses en termes des connaissances qu'il fallait donner à la machine pour qu'elle puisse faire du raisonnement, qu'elle puisse résoudre des problèmes, apporter des décisions intéressantes, etc. Ce qui était à la fois très limitatif, étant donné qu'elles étaient très spécialisées, mais relativement rassurant parce que le contexte était étroit à chaque fois. On est passé de ces systèmes très spécialisés à des systèmes polyvalents. Cette grande polyvalence multitâche sur des environnements ouverts s'est traduite d'abord sur la classification de données, le traitement de données. Et ça, c'est les années 2010-2012. Et puis, à partir des 10 ans après, 2022, c'est la génération de données, et en particulier le langage naturel. Et cette polyvalence a été extrêmement surprenante, non pas au sens de fonctions qui n'existaient pas en IA, on savait traiter le langage naturel, mais avec des performances relativement modestes jusque-là. Elle a été surprenante à cause d'un facteur d'échelle. On avait jusqu'à présent des modèles relativement petits. Quelques milliers, quelques millions de paramètres dans ces modèles. Le paramètre est un chiffre qui figure quelque part et qui permet de faire des opérations. Et pour ces méthodes d'IA générative, les grands modèles, lorsqu'ils ont atteint le milliard de paramètres grâce à la capacité de calcul et grâce au réseau parce qu'on distribue ces calculs, etc., Et grâce aux capacités d'apprentissage liées à grande masse de données, eh bien, lorsqu'on atteint le milliard de paramètres, émergent des fonctions qu'on n'attendait pas. Émerge une maîtrise du langage naturel qu'on n'attendait pas. Donc ce sont des modèles gigantesques et ce facteur d'échelle a été extrêmement surprenant. Personne ne l'a vu venir dans la communauté scientifique. Personne ne l'a vu venir.
C'est quand même assez extraordinaire. Quand le nombre de données augmentait, on arrivait à suivre l'évolution et à partir d'un certain nombre de données, il s'est passé quelque chose de différent. C'est
absolument,
ça ?
Absolument.
Et qu'on n'attendait pas.
Qu'on n'attendait pas et qu'on n'explique pas très bien aujourd'hui. On ne le comprend pas finement. On sait très bien comment c'est programmé, puisqu'on l'a programmé. Mais comment se fait-il que jusqu'à quelques centaines de millions de paramètres, le système fait de la réduction statistique, mais avec des possibilités relativement limitées. Au-delà du milliard, des quelques milliards de paramètres, il est capable d'apprendre des algorithmes et de faire des raisonnements. Les premiers grands modèles de langage faisaient des erreurs, ils continuent d'ailleurs de faire des erreurs, mais avec beaucoup moins d'erreurs qu'avant. Ils faisaient des erreurs malgré le fait qu'ils étaient capables de performances remarquables. Donc, pour l'anecdote, quand c'est apparu à la fin des années 2022, un ami et collègue à moi de l'Université du Maryland a posé la question à un de ses grands modèles de langage, qui est Malik Galab. Et le système lui répond, c'est un chercheur en intelligence artificielle qui fait ceci, qui fait cela, qui a publié sur tel et tel domaine, tout ça était correct. Et il rajoute, il est mort il y a 3 ans.
L'IA ajoute il est mort.
Donc, c'est-à-dire qu'il ne vérifiait pas ses sources. Tout ceci, aujourd'hui, se fait dans les meilleurs systèmes. Ils sont capables de vérifier leurs sources. Ils se trompent de moins en moins. On a assisté à un changement de phase, comme tu l'as dit, qui a été une transformation substantielle de capacité de système génératif.
C'est quand même impressionnant et un petit peu angoissant, non ? Parce que ça veut dire qu'on est dépassé par la machine, finalement.
Effectivement, on ne mesure pas toute la portée de l'impact de ces systèmes. Et l'élément suivant qui est en cours de préparation, qui se dessine dans un certain nombre de systèmes aujourd'hui qui vient d'être annoncé très récemment, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique. C'est des systèmes d'intelligence artificielle capables d'agir et d'utiliser des outils pour agir. Ces outils peuvent être des outils matériels, les bras d'un robot, une machine qui se déplace, etc. Mais ça peut être des outils aussi pour l'aider à résoudre de façon spécialisée des problèmes que les techniques génératives n'arrivent pas à résoudre. En particulier le fait d'avoir des algorithmes très très puissants pour traiter les mathématiques, pour avoir des algorithmes très puissants pour traiter la combinatoire, et aussi pour faire de la vérification. Le fait de donner un énoncé tel que « qui est Malik Galab, etc. il est mort il y a 3 ans », n'est pas satisfaisant. Mais si on le passe au crible d'un système de vérification, après, on peut éliminer les parties qui sont sanctuelles. Je prends un exemple concret. Les mathématiciens connaissent les Olympiades internationales des mathématiques depuis des décennies, dans lesquelles se retrouvent tous les jeunes mathématiciens les plus brillants. Chaque pays en sélectionne une dizaine et les envoie pour jouer à ces Olympiades. Et ce sont des problèmes très, très compliqués. Eh bien, cette année, il y a 2 systèmes d'IA qui ont pu parvenir au niveau de la médaille d'or. C'est-à-dire, la médaille d'or, c'est les meilleurs. On est au niveau des 30, 40 meilleurs jeunes mathématiciens de la planète en fin 2025. Donc, on utilise largement aujourd'hui l'IA générative pour programmer. La plupart aujourd'hui des grands centres de programmation s'appuient sur l'IA générative pour programmer. Je le fais moi-même, ici mes collègues le font. Les programmes courants utilisent l'IA générative pour maîtriser la syntaxe, le code, etc. Avant, c'était des choses qui étaient faites par des programmeurs très spécialisés. Dans un certain nombre de cas, on peut vérifier que ce programme tient, qu'il a de bonnes propriétés. Pas toujours, mais souvent on peut le vérifier. Aujourd'hui, on va le vérifier grâce à des systèmes de vérification formelle, dans un certain nombre de cas, ou grâce à des systèmes de test. Donc, le fait que l'IA générative, non seulement génère des choses qui sont construites, mais qui ne sont pas sûres, et puisse les vérifier avec des outils, est un pas vers cette IA agentique qui utilise des outils. Mais entre utiliser des outils pour résoudre un problème et utiliser des outils pour transformer le monde, il y a un énorme pas conceptuel, mais il n'est pas si considérable que ça par rapport à l'avancée de l'état de l'art aujourd'hui. Et je pense qu'on va arriver à des systèmes d'IA agentique relativement performants. On commence à en voir quelques-uns qui sont annoncés dans les 3-4 prochaines années.
Ah ben, je crois qu'on va parler et revenir sur tout ça dans l'émission prochaine. Donc, je comprends bien qu'au début, l'IA utilisait une méthode statistique, trouvait des réponses à des problèmes qu'on lui posait, et qu'il y a vraiment cette rupture, ce passage à un autre niveau, c'est d'organiser, de prendre des décisions.
C'est la phase IA génie. Hein, les éléments de progrès sont liés aux architectures conceptuelles des réseaux de neurones, hein, puisqu'à la base, c'est des réseaux de neurones qui sont derrière, avec des architectures qu'on appelle des transformers et leurs variantes, qui sont sur des bases statistiques. Associé à cela, on a, dans la panoplie des outils d'IA, des systèmes qui s'appuient sur la logique, qui s'appuient sur les mathématiques, le système de propagation de contraintes, beaucoup de choses qui sont disponibles. Le fait de pouvoir s'appuyer sur ces outils, ou simplement vérifier les références, chercher des choses sur Internet et les vérifier, apporte énormément au système génératif.
Tout n'est pas correct de ce qu'on voit sur Internet.
Absolument, tout n'est pas correct de ce que l'on voit sur Internet. Mais le fait de dire que cette même assertion est corroborée par 3 ou 4 sources, nous donne du poids. C'est exactement la même chose que sur un résultat scientifique sur lequel il y a controverse et sur lequel on discute aujourd'hui.
D'accord, je comprends très bien. Et merci beaucoup Malik, parce que je crois qu'à partir de là, on va avoir beaucoup de choses à raconter la semaine prochaine sur les agissements de l'IA et des propositions, des décisions qu'elle fait, oui, qui peuvent être pas vraiment erronées, mais trichées, par exemple. Donc, on va parler de ça la semaine prochaine.
Attends.
Merci, au revoir, Malik.